Chapitre 19. 2 octobre 1998, 11h31. Marc s'arrêta, le temps d'une pause. Il s'appuya contre la rampe chromée qui séparait en deux l'escalier abrupt, descendant vers le boulevard Blanqui. L'acier froid lui glaça la main. Marc avait son itinéraire en tête. Métro, ligne 6, changement à Nation. Puis ligne A4 du RER, direction Marne-la-Vallée. Sortie Val d'Europe, une station avant le terminus. Dans une heure au plus, il serait à Couvray. Il n'aurait aucun mal à trouver l'adresse exacte d'Écarville en téléphonant à Jennifer, sa collègue heureusement de garde ce jour, comme il l'avait fait pour celle de Grand-Duc. Pas besoin de prévenir l'Écarville de son arrivée. À coup sûr, il y aurait du monde pour répondre à ses questions. Le grand-père dans son fauteuil roulant et la reine-mère dans son château ne devaient pas quitter souvent la propriété, même pour faire les courses. Il payait du monde pour cela. Pour cela aussi. Marc sourit pour lui-même. Il allait leur faire la surprise. Après tout, désormais, lui et les Carville possédaient le même but. Prouver que Lily n'était pas sa sœur, que le sang des vitrales ne coulait pas dans ses veines. Il y avait bien un terrain d'entente à trouver. Un terrain d'entente. Marc frissonna en repensant au cadavre de Grand-Duc. Il attrapa son portable. Comme il se l'était promis, il lui fallait téléphoner à Dieppe. Encore une fois, il tomba sur un répondeur. Depuis longtemps maintenant, il appelait sa grand-mère par son prénom, Nicole. C'était sa façon personnelle de régler définitivement l'hésitation qui avait perturbé ses 10 premières années. Dire « maman » ou dire « mamie ». Nicole, c'est Marc. As-tu des nouvelles de Lily ? Récentes, je veux dire, depuis ce matin 9h. Rappelle-moi, c'est très important. Il marqua une pause, reprit. Au fait, Nicole, même si je n'en ai aucun souvenir, tu étais très belle quand tu avais 50 ans. Je t'embrasse. La main gauche de Marc se crispa sur le métal de la rampe froide, comme pour y coller sa paume, et y laisser des lambeaux de chair lorsqu'il la lâcherait. Les doigts de son autre main dansèrent sur les touches du téléphone. Cette sonnerie. « Lily, c'est Marc. Où es-tu, bordel ? Réponds. Réponds-moi. Ne pars pas. Je sors de chez Grand-Duc. Il ne s'est pas suicidé. Il a trouvé quelque chose. Je peux trouver aussi. Je vais trouver. Appelle-moi. » Il s'engagea dans le métro. Les quais étaient presque vides à cette heure. Marc eut à peine le temps de perdre son regard de l'autre côté des rails, dans le paysage mystérieux d'une affiche géante invitant au tourisme dans les Émirats. La rame surgit dans les secondes qui suivirent et s'enlisa dans le sable d'or, juste devant le palais oriental, sous les étoiles des mille et une nuits. 8 stations, entre Corvisart et Nation. Journal de Crédule Grand-Duc. J'étais donc engagé pour une enquête longue de 18 ans. Vous imaginez ? 18 ans que cette histoire me colle aux neurones, comme une petite boule de cervelle rose, mâchée et remâchée, jusqu'à n'avoir plus aucune saveur. Méfiez-vous, vous qui lisez ces pages, que la petite boule de cervelle rose ne se colle pas à vos propres pensées, malaxée par votre imagination et tirée par votre logique, sans fin. Les premiers jours, les premiers mois de l'enquête furent terriblement excitants. Même si j'avais 18 ans devant moi, je me sentais habité par un sentiment d'urgence. Je m'étais avalé toutes les pièces du dossier d'instruction, des centaines de pages, en moins de 15 jours. Lors des 2 premiers mois, j'ai interrogé plusieurs dizaines de témoins, les pompiers qui étaient intervenus sur le Mont Terrible, tout le personnel médical du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, le docteur Morange, les proches des Carville, les proches des Vitrales, les flics, le commissaire Vatelier, les avocats, le Guerne et les autres, les 2 juges, le Drian et Weber, et j'en passe. Je ne dormais plus. Je travaillais 15 heures par jour. Je me réveillais et je me levais en pensant à l'affaire. Comme si j'avais envie de régler cette histoire le plus vite possible. Comme si j'avais envie de faire du zèle vis-à-vis de ma patronne, pour qu'elle soit contente de moi, qu'elle m'assure son contrat à vie. Fidéliser la cliente, comme dirait un épicier. En réalité, je ne calculais pas. Cette affaire me fascinait. J'étais persuadé que j'allais découvrir quelque chose de nouveau, un indice que tout le monde avait laissé filer. J'entassais les notes, les photos, les heures d'enregistrement. Un boulot de dingue. J'ignorais encore à l'époque que je construisais méticuleusement les fondations de ma névrose. Après quelques semaines d'analyse de toutes les pièces du dossier, je me suis forgé une première conviction. À l'époque, je pensais que c'était une idée de génie. La gourmette, cette satanée gourmette en or que devait porter Lise Rose de Carville dans l'avion, offerte par son grand-père. Le bijou qui avait fait basculer la certitude du juge Weber, le grain de sable dans la balance de la justice, l'arme fatale des vitrales et de Maître Le Guerne. J'avais acquis la certitude que cette arme fatale était une lame à double tranchant. Sans gourmette, tout poussait à croire que la miraculée était Émilie Vitral. Mais si le bébé éjecté de l'avion était Lise Rose, rien n'interdisait de penser que la fine gourmette ait pu se briser lors du choc. Partant de là, si l'on retrouvait la gourmette quelque part autour de l'avion, alors tout s'inversait. Ce serait la preuve irréfutable que Lise Rose était la miraculée. Je suis un patient, un maniaque, un obstiné. Je peux être obsessionnel dans le boulot, je vous assure. Même si les flics avaient ratissé les alentours de l'Airbus calciné sur le mont Terrible pendant des heures, j'ai tout recommencé. Armé d'une poêle à frire pour détecter les métaux, j'ai passé 17 jours sur le mont Terrible, fin août 1981, à ratisser la forêt, centimètre par centimètre. C'était la tempête le soir du crash. La gourmette pouvait être tombée dans la neige, s'être enfoncée dans la terre boueuse. Un flic chargé d'une telle fouille après l'accident, les doigts gelés, les pieds trempés, n'allait pas faire de zèle. Moi si. Pour rien. Je vous fais grâce de l'inventaire des capsules de bière, des canettes, des pièces de monnaie, des déchets ordinaires que j'ai déterrés. Du coup, le type qui entretenait le mont Terrible pour le parc naturel du Haut-Jura m'avait à la bonne. Grégory Morez. Un beau gosse mal rasé, aux yeux de chien-loup. Le visage bronzé et buriné comme s'il se tapait le Kilimandjaro tous les week-ends avant de rentrer chez lui. On a fini par sympathiser. Trois sacs poubelles d'ordures en tout genre redescendus du mont. Mais pas la moindre gourmette. Je n'étais pas vraiment déçu, à vrai dire. Je m'en doutais, et je vous l'ai dit, je suis du genre obstiné. J'obéissais juste aux ordres de Mathilde de Carville. Ça m'allait bien, ne négliger aucune piste, avancer pas à pas, prendre le temps. Ma véritable certitude était tout autre. Si la gourmette était bien tombée quelque part à côté du bébé miraculé la nuit du drame, quelqu'un pouvait fort bien l'avoir trouvée, un pompier, un flic, un infirmier, et l'avoir tout simplement fourré dans sa poche. Ou bien, un type du coin était revenu fouiller une fois la carlingue refroidie. C'était un bijou en or massif, estimé à l'époque à exactement 11 560 francs. La facture en faisait foi. Il y avait le poinçon de Tournaire, place Vendôme. Un tel objet pouvait susciter des convoitises. C'est un classique. Les charognards qui se servent dans les débris d'un naufrage, surtout que personne ne pouvait se douter de l'importance qu'il prendrait par la suite, ce foutu bijou. Mon idée était très simple, basique même. Inonder la région de petites annonces, forte récompense à celui qui nous rapporterait la fameuse breloque. Il fallait que la récompense dépasse largement la valeur du bien. En accord avec Mathilde de Carville, j'avais prévu d'augmenter progressivement la taille de l'appât. On avait commencé tranquillement à 20 000 francs. Une telle pêche demandait de la patience, du temps, du doigté avant que le poisson morde. J'étais confiant. Si la gourmette avait été trouvée, si elle dormait dans un tiroir caché jalousement par un voleur d'occasion, comme Gollum conserve l'anneau de Frodon, un jour ou l'autre elle referait surface. Un indice filtrerait. J'avais raison. J'avais raison sur ce point, au moins. L'autre grande occupation de mes 6 premiers mois d'enquête fut ce que j'appelle depuis mes vacances turques. J'ai dû passer au total près de 30 mois en Turquie, la majorité pendant les 5 premières années. J'étais flanqué de Nazim Ozan. Il avait accepté tout de suite de me seconder dans l'enquête. À l'époque, il bossait à la commande sur des chantiers, plus ou moins au noir. Il approchait lui aussi des 50 ans. Jouait les mercenaires dans les points chauds de la planète, cerné par des kamikazes fanatiques. Ça ne le branchait plus trop. Et surtout, il avait rencontré l'amour. Il vivait à Paris avec une femme un peu grassouillette, mais mignonne comme tout, d'origine turque comme lui, Eyla. Allez comprendre pourquoi, tous les deux étaient inséparables. Eyla était plutôt du genre maîtresse-femme, jalouse comme un tigre, et je devais négocier pendant des heures à chaque fois que j'avais besoin d'emmener Nazim avec moi en Turquie. Une fois là-bas, il fallait qu'il téléphone tous les jours. Je crois qu'Eyla n'a jamais rien compris à cette histoire d'enquête. Pire même, ne nous a jamais cru. Mais elle ne m'en a pas voulu. C'est même elle qui a insisté pour que je sois leur témoin de mariage, en juin 1985. Malgré Eyla, je traînais le plus souvent Nazim avec moi en Turquie, où il me servait d'interprète. À Istanbul, je descendais toujours à l'hôtel Askok, sur la Corne d'Or, près du pont Galata. Nazim, lui, dormait chez des cousins d'Eyla, à Eyüp, dans la banlieue d'Istanbul. Il n'avait pas le choix. On se retrouvait dans un bar juste en face de l'hôtel, le café Des Anges, sur Leyan Issik Sokak. Nazim en profitait pour siffler raki sur raki et tenter de m'initier au narguilé. Des vacances turques, je vous disais. Pour rire. Je dois vous avouer, je crois que j'ai toujours été un peu cynique en ce qui concerne les arts et traditions du monde, l'exotisme, le dépaysement, ce genre de clichés. Une sorte de racisme, si vous voulez, mais un racisme sans exclusive, pas vraiment ciblé. Une sorte de scepticisme global sur le genre humain. Sans doute hérité de mon ancien métier de mercenaire, des boueurs chargés de vider les poubelles du monde, d'épicier des poudrières, si vous préférez. La vie turque commença à me sortir par les yeux, le nez et les oreilles au bout de moins d'une semaine. Le carillon incessant des minarets, la foire à tout permanente dans les rues, les femmes voilées, les putes, le thé, l'odeur d'épices, les taxis qui roulent comme des malades, les embouteillages continuels jusque sur le Bosphore. Tout. La moustache de Nazim était la seule chose que je supportais, au final. Bon. Je me doute que vous vous moquez de mon anthropologie de bazar. Ce n'est pas le sujet, vous avez raison. C'était simplement pour relativiser la dimension vacances méditerranéennes de l'affaire. Je me réfugiais dans le travail. Je ne vous mens pas. Les premiers mois, au moins avec Nazim, nous avons enquêté comme des fous. Nous avons passé des heures à interroger les commerçants du Grand Bazar pour retrouver qui avait pu vendre les fameux habits portés par le bébé miraculé. Un body de coton, une robe blanche à fleurs orange, un pull de laine écrue en jacquard. Vous imaginez ? Le Grand Bazar d'Istanbul, la plus grande galerie commerçante au monde, 58 rues intérieures, 4000 boutiques. Presque tous les vendeurs baragouinaient l'anglais, le français, tentaient de se passer de la traduction de Nazim, s'adressaient directement à moi, comme si le drapeau tricolore était imprimé en filigrane sur mon front. Un bébé, mon frère ? Tu cherches des habits pour ton bébé ? J'ai tout ce que tu cherches, fille ou garçon, ton trésor. Dis-moi ton prix. 4000 boutiques. Croyez-moi. Le double ou le triple de vendeurs repérant le pigeon occidental à 50 mètres. Mais j'ai tenu bon. Jusqu'au bout, j'ai passé plus de 10 jours à arpenter ce dédale commercial au plafond de mosaïques dorées. Au final, j'ai recensé 19 boutiques qui vendaient le body de coton, la robe blanche et le pull de laine. Les 3 articles à la fois, exactement les mêmes. Et aucun vendeur ne se souvenait d'avoir vendu les 3 vêtements ensemble à une famille du genre occidental. Peine perdue. L'impasse au bout du dédale. Restait alors à en savoir plus sur Lise Rose et sur ses parents, Alexandre et Véronique de Carville. L'enquête officielle, pour l'identification de Lise Rose, ne reposait que sur 2 points. La photographie de dos reçue par les grands-parents Carville et le témoignage de Malvina. Il nous fallait donc tout reprendre en Turquie, sur la côte, dans leur résidence de Seyhan. J'affichais un optimisme raisonnable. En 3 mois de vie, la petite Lise Rose avait bien dû croiser du monde. Rapidement, j'ai déchanté. Alexandre et Véronique de Carville n'étaient apparemment pas très sociables, guère fans de bains de foule exotiques et de contacts fraternels avec la population indigène. Plutôt du genre à rester cloîtrés dans leur villa blanche avec vue sur la Méditerranée. Ils disposaient même d'une petite plage privée. Enfin, c'était surtout Véronique qui entretenait le monastère. Alexandre travaillait à Istanbul presque toute la semaine. Certes, il recevait de temps en temps des amis, des collègues, des Français. Mais avant Lise Rose. À la naissance du bébé, Véronique avait limité ses sauteries mondaines. Par recoupement divers, j'ai pu retrouver 7 personnes, 2 couples d'amis et 3 clients de l'entreprise de Carville qui furent invités dans la villa de Seyan après la naissance de Lise Rose. À chaque fois, Lise Rose dormait et les invités ne se souvenaient que d'une petite boule de chair dépassant à peine de ses draps qui se soulevait à intervalles réguliers. Seul un client, un Néerlandais, avait vu Lise Rose réveillée. Quelques secondes. Véronique se retira pour lui donner le sein. Elle n'allait pas le faire devant l'industriel hollandais, qui continua de siffler son raki dans le patio en signant ses contrats avec Alexandre. Le délicat directeur commercial de la filiale turque de Shell, que je finis par retrouver, me précisa qu'il serait tout aussi incapable de reconnaître le visage de Lise Rose que les nichons de sa mère. À Bakirkoï, la maternité d'Istanbul où Véronique de Carville avait accouché, plus de 30 bébés naissaient chaque semaine. C'était une clinique privée du dernier chic, et on m'accueillit avec une obséquiosité remarquable. Le pédiatre, le seul qui avait suivi Lise Rose, l'avait examinée environ 3 fois, et me fit remarquer qu'il voyait défiler plus de 20 nouveau-nés par jour. Il me sortit d'un cahier les informations recensées à la naissance de Lise Rose. Le poids, 3,250 kg. La taille, 49 cm. L'enfant a-t-il pleuré? Oui. Avait-il les yeux ouverts? Oui. À part cela, rien. Signe particulier? Néant. L'impasse, encore. Véronique de Carville devait s'emmerder royalement dans sa villa. Du coup, elle avait un minimum de personnel à sa disposition. J'ai juste réussi à dénicher un jardinier, un peu âgé, un peu trop myope à mon goût, qui avait croisé Lise Rose sous les palmiers en fin d'après-midi, bien à l'abri sous une épaisse moustiquaire. Rien n'a en tiré qu'une vague description, encore moins fiable que les affirmations délirantes de Malvina. Je ne vais pas ici vous faire le menu par le détail des témoignages foireux, flous, inexploitables que j'ai accumulés au cours de ces mois. « Ne négligez aucune piste, avait dit Mathilde de Carville. J'obéissais, fasciné. Après tout, il suffisait d'un témoignage, d'un seul, pour décrocher la timbale. » À l'aéroport Atatürk d'Istanbul, une hôtesse se souvenait, avant le départ de l'Airbus pour Paris, ce 22 décembre, avoir fait 3 chatouilles sur le menton d'un bébé. « Un seul bébé, pas 2 ?»«
Non, un seul. »
Du moins, elle le croyait. Elle n'était pas certaine, ni du jour, ni du vol. Un bébé au moins, ça oui, elle s'en souvenait. Cette foutue hôtesse de l'air avait glissé un autre doute dans ma cervelle en vrac. Un seul bébé dans l'avion. Après tout, qui pouvait savoir avec certitude qui était vraiment assis dans l'Airbus ce soir-là? On connaissait avec précision la liste des passagers, mais si l'un d'eux, au dernier moment, n'avait pas embarqué? Un bébé, par exemple. Lise Rose, pourquoi pas? Un retard, un empêchement de dernière minute, un coup de tête de sa mère, un enlèvement, un coup monté. N'importe quelle invention qui me permettrait de penser que Lise Rose n'était pas dans l'Airbus 5403, mais était encore vivante, quelque part en Turquie, ou ailleurs. Hypothèse complètement folle. On pouvait même la retourner. N'était-ce pas étrange, au final, d'avoir si peu d'éléments tangibles sur Lise Rose, ce bébé de 3 mois. Si peu de témoignages, aucun ami pour la câliner, aucune nounou pour la serrer dans ses bras, aucune photo. Rien, ou presque. comme si ce bébé n'avait jamais existé, ou plus précisément, comme si on avait voulu le cacher. À force de tourner les éléments dans ma tête, je devenais complètement paranoïaque. Si Lise Rose n'avait pas pris l'avion, c'est peut-être qu'elle était morte avant. Un accident domestique ? Une maladie incurable à la naissance ? Un crime ? Alexandre et Véronique de Carville avaient emporté leur secret avec eux. Seule Malvina savait, peut-être. Elle en était devenue folle. Toutes ces hypothèses faisaient rire Nazim aux éclats lorsque je les échafaudais devant lui au café Des Anges. Il étouffait sa moustache dans son raki. Un crime ? Tu deviens complètement dingo, Crédoule. Il me ramenait les pieds sur terre entre deux bouffées de narguilé. Il ne jurait que par des indices matériels, concrets, du palpable. Après tout, Crédoule, elle n'est pas restée enfermée dans un cachot pendant 3 mois, ta gamine. Elle est bien sortie dans la rue, si ça se trouve. Quelqu'un, un passant, un touriste l'a vue, l'a prise en photo, l'a filmée par hasard, on ne sait jamais. Et tu veux dire quoi exactement ? Je ne sais pas. Tu as du fric. Fais passer des petites annonces un peu partout en Turquie, dans les journaux, avec la photo de la miraculée. C'est le publié dans l'Est républicain, tu verras bien. Nazim avait raison. C'était une idée de génie. On arrosa la presse turque d'annonces explicites sur ce qu'on cherchait et sur ce qu'on offrait en échange. Un véritable pactole en livre turc. Le 27 mars 1982, je me souviendrai toujours de cette date. C'était tôt le matin. Une lettre m'attendait dans mon casier à l'accueil de l'hôtel Ascoq. Un type était venu directement la porter. La lettre était laconique. Un nom. Ünal Serkan. Un numéro de téléphone, mais surtout la photocopie d'une photographie. J'ai traversé les Yan Issyk Sokak comme un fou au milieu du flux de voitures. Nazim m'attendait déjà au café des Anges. « Un problème, Crédoule ?» Je fourrai la photo dans ses gros doigts poilus. Ses yeux se figèrent. Il fixa le cliché, comme moi quelques minutes plus tôt. Une scène de plage. Au premier plan, une fille brune, bronzée, parfaitement proportionnée, posée tout sourire dans un bikini pas trop sexy, modèle turc. En arrière-plan, on reconnaissait les collines de Seyhan et dans leur écrin de verdure, les murs de la villa des Carville. Entre les deux, sur la plage, quelques mètres derrière la fille en maillot, sur une couverture, à côté d'une femme dont on ne distinguait que les jambes, un bébé était allongé. Un bébé de quelques semaines. Nazim en resta stupéfait. La photo faillit lui tomber des mains. Ce bébé, c'était Lily, la libellule, la miraculée du Mont Terrible, sans aucun doute possible. Mêmes yeux, même visage. Pascal et Stéphanie Vitral, lors de leur séjour en Turquie, ne s'étaient jamais rendus à Seyhan, ne s'en étaient même jamais approchés à moins de 200 kilomètres. Il n'y avait aucun doute possible, c'était la preuve, enfin, nous avions gagné. Le bébé miraculé dans la neige du Mont Terrible était Lise Rose de Carville. J'en aurais pleuré de joie. La grosse moustache de Nazim me souriait, rassurante. Il avait compris, lui aussi, heureux comme un gamin. 2 octobre 1998, 11h44. Une sonnerie, une seule, presque inaudible dans le vacarme souterrain. Pas celle d'un appel sur son téléphone portable, celle indiquant que quelqu'un avait laissé un message dans la boîte vocale. Un appel manqué. Les doigts de Marc tremblèrent jusqu'à sa poche.